On va parler de bâtiments à énergie passive. Qu'est-ce que ça veut dire, un bâtiment passif? Qu'est-ce que ça procure en termes de consommation énergétique? Est-ce que c'est l'avenir? Comment ça se développe en France, dans la Loire, dans la région? Et comment ça se passe dans nos voisins? Eh bien, on va tout vous expliquer parce qu'il y a une première mondiale qui va s'effectuer à Saint-Priest en Jarret. On en parle juste après les infos. Il est midi. Elle est présentée par Sandrine Morin. Bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
3 ans après les attentats de 2015, on tente de se préparer au risque d'attentats et d'intrusions dans les établissements scolaires.
Avec cet exercice impressionnant, ce matin, en Haute-Loire, les 310 établissements ont tous simulé une attaque, un exercice de grande envergure, mais obligatoire depuis 2017. Octavie Couchard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez ce matin dans le collège de Notre-Dame du Château, à Monistrol-sur-Loire, avec un scénario plutôt très bien rodé au tapis.
Oui, un individu annonce sur Facebook qu'il menace d'attaquer un établissement scolaire de la Haute-Loire. Dès lors, l'alerte est donnée vers 9h15 ce matin par le préfet. Il envoie un SMS à l'inspecteur d'académie qui envoie à son tour un message à tous les chefs d'établissement de Haute-Loire. À Monistrol, le directeur a prévenu directement ses adjoints dès la réception du texto. 3 coups de sonnerie ont signalé à tous les élèves et au personnel de l'établissement qu'une alerte était lancée. À partir de là, tous les rideaux de l'établissement se sont baissés, les lumières ont été éteintes, toutes les portes fermées et bloqués. Les 745 élèves étaient tous confinés dans leur salle de classe avec leurs professeurs dans le noir et sous les tables. Et pendant presque une heure, il n'y a eu aucun bruit et aucun mouvement dans les couloirs du collège.
Alors le but de cette opération, c'est vraiment de vérifier la capacité et les réflexes de chacun dans ce type de situation, mais aussi de faire valider le fameux PPMS, c'est le plan de prévention de mise en sûreté.
Oui, et pour ça ce matin, 3 gendarmes ont patrouillé dans l'ensemble des bâtiments pour vérifier que les consignes étaient bien appliquées. 6 personnes étaient également postées à différents endroits clés pour veiller à ce que personne ne se déplace dans le collège. Les consignes avaient été expliquées aux élèves la semaine dernière par leurs professeurs et ça a porté ses fruits puisque le plan de confinement a été complètement mis en place seulement en 3 minutes sans panique et sans cri. Un premier bilan plutôt positif a été fait en fin de matinée par la direction avec la sous-préfète après la levée du confinement.
Et cet exercice donc a été réalisé en même temps dans les 310 établissements de Haute-Loire. Le préfet dresse en ce moment même un bilan de cette opération en préfecture. On en reparle évidemment dans la journée sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Un accident du travail impressionnant à Bois-sur-Lignon ce matin.
Oui, un homme pris en charge par les pompiers et le SAMU de la Loire il y a quelques minutes, il a fait une chute de 5 mètres, une chute d'une nacelle élévatrice. Ça s'est passé donc à Bois-sur-Lignon dans un magasin de bricolage. L'homme souffre d'un traumatisme crânien important. Il a été transporté par hélicoptère au CHU de Saint-Étienne.
Une enfant de 10 ans est morte dans l'incendie d'une maison hier soir en Ardèche.
Les secours sont intervenus vers 22h à Lamastre, dans le nord du département, et ont tenté longuement, en vain, de ranimer cette fillette. Son père, âgé de 41 ans, grièvement brûlé au niveau de la tête et des bras, a été hospitalisé à Saint-Étienne. 5 séjours sont en danger, tandis que son fils de 9 ans et sa compagne de 43 ans, légèrement intoxiqués, ont été transportés à Valence. Une enquête de gendarmerie doit préciser l'origine du sinistre. Le feu serait parti accidentellement d'un radiateur défectueux. Ça souffle fort sur nos 2 départements en ce moment, certes beaucoup moins fort qu'ailleurs, et notamment on pense à la Californie sous le coup des flammes, pardon, mais suffisamment donc pour que nos 2 départements soient placés en vigilance jaune par Météo France. Les pompiers ont fait pas mal d'interventions pour des chutes d'arbres et des chutes de matériaux, des rafales qui devraient se calmer en milieu d'après-midi avec une météo ensoleillée. La météo, ce sera avec vous Olivier à la fin de ce journal.
Une journée de mobilisation dans l'éducation nationale.
Pour la première fois depuis 2011, les 4 organisations syndicales sont ensemble pour dénoncer la suppression de plus de 2600 postes dans les collèges et les lycées et 400 postes dans l'administratif. Le budget sur l'éducation nationale est discuté demain à l'Assemblée nationale, alors que c'est les enseignants qui manifestent donc aujourd'hui. Noémie Abrial est professeure d'SVT au lycée de Firminy et elle était présente lors de la manifestation à Saint-Étienne ce matin.
La suppression de postes nous inquiète parce que clairement pour nous ça veut dire plus d'élèves dans les classes et ça veut dire aussi des temps de service partagés, c'est-à-dire que de nombreux collègues vont être sur 2 voire 3 établissements. Ce qui nous inquiète aussi, ce sont nos conditions de travail qui vont être assez dégradées puisque cette réforme chamboule beaucoup de choses. On a parlé aussi du bac avec le contrôle continu. En fait là, moi je trouve que cette réforme elle pense qu'à ceux qui se débrouillent bien, qu'à ceux qui vont être bien informés, hein, parce que les élèves de seconde vont déjà devoir prendre des décisions quant à leur orientation. Il y a beaucoup de collègues qui n'avaient pas l'habitude de faire grève et qui m'ont dit que là, ils allaient la faire parce qu'ils étaient très inquiets, en fait. Il y a de la colère, bien sûr, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait une grande anxiété de la part des professeurs qui réalisent beaucoup que vraiment leurs conditions de travail vont changer et que c'est pas dans le bon sens.
À Saint-Étienne, ils étaient un millier ce matin dans les rues à une délégation et d'ailleurs rendez-vous à 13h avec l'inspecteur d'académie. La Poste se transforme à Saint-Étienne également. À midi et demi dans notre reportage grand format, on va faire une sorte de voyage dans le futur avec ce nouveau bureau de poste qui ouvre à côté de la mairie. Un bureau de poste imaginé par la Cité du Design avec des postiers qui ne sont plus derrière des guichets mais debout dans l'entrée pour vous orienter vers les tablettes et les automates.
Les verts gonflés à bloc pour le derby.
Oui, on peut dire qu'ils ont tout fait pour ce qu'il fallait avant la trêve. Deux victoires de suite avec la dernière samedi contre Reims. 2-0. La SS est donc ce matin 5e de Ligue 1 avec un petit point de Lyon qu'on va affronter vendredi 23. Un derby interdit aux supporters sur décision de la LFP. Mais à vivre évidemment ce 23 novembre sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Dans le débrief ce soir, un invité de marque, Anouk Jaubert, la championne stéphanoise d'escalade qui a remporté ce week-end son premier titre de championne de France de combiné à Toulouse. C'était la première fois que la compétition avait lieu. Elle mixe les trois disciplines de l'escalade, le bloc, la difficulté et la vitesse. Le combiné, c'est le format qui sera présent aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Autant dire que le résultat de ce week-end est prometteur pour la Ligérienne. En Guadeloupe, la Roupe du Rhum a vécu un final incroyable ce matin. Tout le monde misait sur François Gabart. Eh bien non, Francis Joyon a réussi l'exploit de le rattraper dans le final. C'est la première fois que le skipper remporte cette course avec à peine 7 minutes d'avance.
Mélissis, vous écoutez France Bleu Saint-Étienne-Loire. On a tous faim. Alors ce midi, c'est boudin pour tout le monde, d'autant qu'il a un nouvel ambassadeur.
Mais oui, c'est le député Julien Borowczyk qui a été intronisé hier par la confrérie du boudin de Boin-sur-Lignon. Les journées du boudin ont eu lieu tout le week-end avec donc cette tradition de faire entrer chaque année de nouveaux ambassadeurs, Yves Renaud.
Avec un invité de marque cette année, Julien Borowczyk, le député de la 6e circonscription, celle de Boin-sur-Lignon justement.
Avec beaucoup d'honneur et de joie. Ça fait plaisir de voir qu'on peut être présent à l'Assemblée nationale et également dans sa circonscription pour valoriser le terroir et le territoire.
Oh, ça, c'est pour le discours sérieux du député dans la campagne, mais il sait aussi prendre de la distance avec l'événement.
Je dirais de l'humour et de l'autodérision, mais je crois qu'il faut aussi savoir prendre ce temps de recul, ne pas prendre trop la grosse tête.
Mais n'allez surtout pas rire de cet événement avec Pierre Poix, le président de la confrérie, qui défend bec et ongles la spécialité locale.
Le boudin de Boin est particulier parce que je pense qu'à l'époque, les cochons avaient beaucoup de gras et ils ont remplacé le sang du cochon par des choux et de l'herbe. Ça a changé un peu les goûts.
C'est une recette secrète ?
C'est une recette presque secrète. On continue de le faire comme ça et ça perdure depuis 1965.
Les confrères ont demandé aux députés d'apporter le boudin de Boin sur la table de l'Assemblée nationale. Défi à relever pour Julien Borowczyk.
J'ai réussi à introduire le saucisson d'une salaison de Trelin sur la table de Richard Ferrand qui en raffole. Je dirais que j'en suis presque son dealer, mais je pense que le boudin, il n'y aura pas trop de mal et ça sera avec grand plaisir.
Parmi les autres personnalités intronisées hier soir, figurait Thierry Delhomme, le président du district de football de la Loire.
Oui, toutes les photos sont à retrouver sur notre site francebleu.fr. On disait du vent, de la prudence, les pompiers ont fait pas mal d'interventions, on fait attention.
Oui, on a des rafales qui sont attendues jusqu'à 85 km/h et jusqu'en milieu d'après-midi. En revanche, ce vent-là pousse les nuages et donc de belles éclaircies sont attendues dans la Loire cet après-midi. 17 à 18 degrés en moyenne sur le meilleur de cette journée, du sud de la Loire au nord de la Loire. Après, en Haute-Loire, on aura un petit peu plus de nuages et un petit peu moins de douceur, entre 12 et 15 degrés. Attendez, jusqu'à 12 degrés sur le relief cet après-midi. Demain matin, vous allez vous réveiller sous les nuages. En revanche, une certaine douceur au lever du jour. 10 à 13 degrés, ça va. On a connu pire, avec en revanche de la pluie, hein, notamment sur la Loire pour commencer la journée. Ça sera pour tout le monde dans les heures qui suivent. On va voir demain après-midi quelques rayons de soleil possibles sur le Roannais ou encore sur la plaine du Forêt. Mais les températures seront moins élevées que celles d'aujourd'hui. Au maximum, on aura entre 12 et 14 degrés dans la Loire demain après-midi.
La météo avec Murprotec Loire-Haute-Loire, solution définitive et garantie contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotect.fr.
On fait la route ensemble sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Évidemment, on vous accompagne tout au long de la journée et ça se passe plutôt bien en ce moment sur le pourtour stéphanois, dans Saint-Étienne également, sur la Nationale 88, la 47, la 72, la 89. Vous roulez très correctement, vous remarquez une difficulté sur votre parcours, vous nous appelez 04 77 10 00 10.
Une heure ensemble, Olivier Rocher.
Midi 9, c'est parti, jusqu'à 13h, une heure ensemble avec l'atelier d'architecture Riva, basé à Saint-Étienne. Il est à l'honneur aujourd'hui car il va réaliser une première mondiale, le premier établissement de santé en énergie passive à Saint-Priant-en-Jarret. Et on va en parler avec Julien Riva. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Bleu. Déjà une première question très simple, qu'on pose les bases dans cette émission. C'est quoi un bâtiment à énergie passive ?
Alors, un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui répond à trois critères. Le premier critère, c'est une consommation d'énergie pour le besoin chauffage qui correspond à 15 kWh par mètre carré par an. Retenez simplement 1 euro, 1,50 euro de chauffage par mètre carré à l'année. Si vous avez une maison de 100 mètres carrés, 150 euros de chauffage pour l'année. Un deuxième critère qui est celui de l'étanchéité à l'air. C'est un petit peu technique, mais retenez un bâtiment particulièrement étanche. Mais étanche ne veut pas dire confiné, on va le voir après. Et puis un dernier critère qui est 120 kWh par mètre carré par an, tout usage confondu, c'est-à-dire un bâtiment qui consomme peu d'énergie, y compris pour la lumière, pour tout ce qu'on va brancher à l'intérieur.
Ça veut dire qu'il prend de l'énergie de l'extérieur, il se sert de l'énergie de l'intérieur également. Comment ça marche ?
Alors, ça marche. D'abord, il faut concevoir un bâtiment qui soit bien orienté. Pour cela, on fait une étude de l'ensoleillement qu'on appelle Héliodon et qui va caractériser le site. Il peut y avoir des masques lointains, des montagnes par exemple, ou des masques proches, un immeuble qui serait au sud et qui ferait des ombres portées sur la construction. Donc ça, c'est particulièrement important puisqu'effectivement, le bâtiment passif se nourrit de ses apports solaires. Donc, ils sont souhaitables en hiver, il faut les maximiser, et il faut s'en protéger en été pour éviter la surchauffe. Donc, la conception qu'on appellerait bioclimatique est effectivement un des piliers de la construction passive. Mais ce n'est pas le seul. Il faut également étudier tous les ponts thermiques, ce qui n'est jamais fait dans la construction classique. Donc, ça nécessite une conception particulièrement performante. Ensuite, il faut également être vigilant sur la mise en œuvre et assurer une étanchéité à l'air très performante. Il y a également une caractéristique très importante. On prévoit sur tous les bâtiments passifs une ventilation mécanique à double flux qui agit un petit peu comme un récupérateur de chaleur. C'est-à-dire qu'au lieu de faire rentrer de l'air froid par les fenêtres et de la chasser par la VMC dans la salle de bain, dans la cuisine, eh bien là, on a un appareil qui ne fait pas rentrer l'air par les fenêtres, mais qui récupère la chaleur qu'on est en train d'extraire et la fait rentrer dans la maison.
D'accord, donc c'est ce genre de cercle ensuite vertueux qui permet de chauffer la maison.
Tout à fait.
C'est une source en tout cas pour chauffer la maison.
Voilà, effectivement, en fait, on n'a aucune déperdition quasiment. Et donc, après, on utilise la chaleur qu'on a dans la maison. Puisque de la chaleur, on en a l'ordinateur, la cafetière, la plaque électrique, le four à micro-ondes. Tout ça produit de l'énergie. Soi-même, on produit de l'énergie, une famille de 4 personnes. Quand elle est en train de dîner, chacun produit 100, 200 watts, donc c'est 1000 watts d'apport, ce qu'on appelle d'apport interne. Et en fait, ces apports suffisent à chauffer la maison.
Alors, vous en avez fait votre spécialité. Alors, durant cette émission, on va rentrer dans les détails d'une maison passive et comment on y réfléchit, comment ça se construit, etc. etc. Mais quand on se balade sur votre site, on voit qu'il y a plusieurs bâtiments qui ont été labellisés maison passive. C'est devenu votre spécialité ?
Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est devenu notre spécialité. On est parti d'un constat, c'est une invention du professeur Feist, qui a établi les bases du concept des bâtiments passifs en 1991, donc il y a près de 30 ans maintenant, en Allemagne. Et les Allemands et les Autrichiens construisent beaucoup de bâtiments passifs. Il est dommage qu'en France, on accumule du retard. Et suite à plusieurs voyages en Suisse, en Autriche et en Allemagne, je me suis dit, mais on est fou en France de ne pas appliquer ces principes de construction qui ont fait leur preuve depuis de nombreuses années outre-Rhin. Pourquoi ne le fait-on pas ? La question reste ouverte. Mais effectivement, donc je n'ai rien inventé du tout, mais je n'ai fait que apprendre sur ce qui se fait.
Ça va dans le sens de tout ce qui est protection de la nature, de la terre, des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, tout ça va dans ce même sens-là.
Ah oui, tout à fait. Et surtout, quand on regarde la production de gaz à effet de serre, il est très difficile de progresser dans certains domaines. Si on prend par exemple le domaine des transports, des milliers d'ingénieurs travaillent dans les grands groupes automobiles pour réduire l'émission de gaz à effet de serre et faire des moteurs moins polluants. Les voitures électriques, qui sont une solution, créent des problèmes parce qu'il y a toute la question du retraitement et de la production des batteries.
Exactement.
À l'inverse, dans le bâtiment, un bâtiment passif, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça marche et on est sur des facteurs par rapport au neuf, 4. Par rapport à des bâtiments anciens, facteur 10, on a même eu atteint des facteurs 14. Donc on divise par 14 la consommation d'énergie d'un bâtiment en ayant recours à de la main-d'œuvre locale, non délocalisable. Pour moi, c'est un formidable vecteur, de limitation de gaz à effet de serre et de reprise économique.
Donc il faut y penser, sérieusement, en France, parce qu'on va faire le point dans un instant, mais c'est vrai qu'il y en a très peu en France par rapport à nos voisins, notamment allemands. On va évoquer également tout ce côté maison passive, bâtiment passif, avec vos invités, Laurence Bonnevie, qui est architecte à Paris et qui fait partie de l'association La Maison Passive, Franck Janin, Elias Sol, un bureau d'études avec lequel vous avez travaillé, avec lequel vous travaillez, puis Benoît Magan, qui est locataire d'une des maisons passives à Saint-Étienne.
Oui.
On va voir comment ça se passe pour lui qui l'utilise au quotidien. Et puis on va revenir également sur votre projet de premier bâtiment de santé dans le monde.
Oui, dans le monde.
Dans le monde. Ça sera à Saint-Priest-en-Jarret. On va y revenir dans un instant.
Sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, on passe une heure ensemble. France
Bleu. La passion pour les verts est intemporelle et coule dans nos veines.
Une vraie passion depuis 25 ans.
Les grandes heures, les désillusions, les joies et les peines de notre club de cœur, c'est vous qui en parlez le mieux.
Oh, c'est enfant ! La but stéphanoise !
Moi, je suis fan des verts depuis 1976, la finale.
Paroles de supporters, écoutez-vous à 6h20 et 17h20 sur France Bleu.
France Bleu présente Benabar en concert à Lyon. Benabar sur scène, c'est la suite logique du début de la suite, son dernier album.
C'est le début de la suite.
1h30 de show autour des nouvelles chansons, mais aussi des anciens succès.
C'est l'effet papillon, petite cause et grande conséquence.
Benabar, mardi 11 décembre, 20h, Hall Tony Garnier de Lyon, un événement France Bleu.
Un événement France Bleu.
France Bleu Saint-Étienne-Loire.
France Bleu.
et Ville de Lumière sur France Bleu.
Une heure ensemble sur France Bleu.
Midi 20 avec Julien Riva, architecte, qui va proposer, qui va construire dans quelques mois, l'ouverture est prévue pour juin 2019, c'est ça, un bâtiment de santé passif. Donc, en termes énergétiques, ça sera à Saint-Priest-en-Jarez, du côté de l'hôpital Nord, je suppose.
C'est ça, juste à côté.
Un centre de dialyse.
Un centre de dialyse, le centre de dialyse Arctique 42.
Et c'est là. Alors, c'est pas une bêtise, c'est bien une première mondiale.
Alors oui, tout à fait. On a trois. J'ai vérifié ce matin. Il y a trois bâtiments de santé majeurs qui se construisent actuellement en Europe et qui visent le label passif. Un bâtiment en Norvège, un autre en Allemagne, du côté de Munich, et celui de Saint-Priest. A priori, notre bâtiment à Saint-Priest devrait être livré en premier, donc réponse dans quelques mois.
Tout du moins, ce sera une première en France.
Ça, c'est certain.
Nous sommes avec Laurence Bonnevie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association La Maison Passive. Julien Riva, pourquoi vous la vouliez avec nous ce midi ?
Alors, tout à fait, parce que Laurence est présidente de l'association La Maison Passive, que c'est une excellente consoeur qui est très impliquée, qui connaît parfaitement le challenge et l'intérêt de concevoir des bâtiments passifs, qu'elle peut très bien en parler, et puis que nous avons effectivement un projet commun à Paris, et c'était bien que Laurence puisse présenter encore mieux que moi l'association.
Alors, l'association La Maison Passive, déjà, quel est son rôle à cette association ?
Le rôle de l'association est de promouvoir le passif au sein de l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire les professionnels, mais aussi tout ce qui est maître d'ouvrage. Donc, ça va être le grand public, mais aussi les gens qui travaillent, les bailleurs sociaux, tous les grands maîtres d'ouvrage qui construisent beaucoup ou qui font aussi de la santé ou autre. Et donc, d'essayer de faire connaître le passif, le faire comprendre, faire de la formation, faire la labellisation de ces bâtiments également. Donc tout ce qui compte, tout ce qui participe au faire savoir, en fait, faire savoir, apprendre à faire, voilà la forme, enfin l'utilité en tout cas de l'association, ce qu'on essaye de faire.
Quel est l'état du bâtiment passif, de la maison passive en France ?
L'état en termes de nombre
de développement, en tout cas, ouais,
Le développement est bon. Alors on est parti de zéro il y a quelques années. On construit de plus en plus. Tous les bâtiments ne sont pas labellisés, donc c'est difficile de faire un état sur le nombre de bâtiments labellisés, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont passifs et qui n'ont pas de label et qui ont fait des démarches auprès de professionnels, mais qui n'ont pas labellisé le bâtiment chez nous. Il y a également aussi beaucoup de bâtiments qui sont proches du niveau passif, donc ceux-là qu'on ne comptabilise pas non plus. Donc on va dire que pour l'instant, on grossit de plus en plus. On est, en termes de bâtiments labellisés, alors je me souviens plus exactement de la position en Europe, mais on est très bien placé, enfin en tout cas sur le nombre de bâtiments labellisés. Alors forcément, on est inférieur à l'Allemagne qui était historiquement les gens qui ont fait les premiers des bâtiments passifs, mais on est quand même très bien placé.
Donc il y a quand même une prise de conscience en France où on commence à s'y mettre et on commence vraiment à développer le concept, quoi.
Oui, bien sûr. Jamais assez et jamais assez vite, forcément, mais on a beaucoup à faire. Donc on a aussi, on a non seulement les bâtiments neufs, mais les bâtiments à réhabiliter. Et là, il y a un énorme chantier en France et ailleurs. Donc on fera jamais assez, puisqu'en fait, il faut faire très vite et très fort. Mais en tout cas, les gens ont en tout cas pris conscience. Je pense que la notion de passif n'est pas totalement inconnue en général. Donc il y a beaucoup de gens qui ont compris ce que c'était, ou en tout cas qui ont entendu le nom. Et puis, il y a eu beaucoup de gens dans les maisons individuelles qui se sont intéressés à ces sujets-là, et c'est peut-être grâce à eux, au début, qu'on s'est fait connaître. Voilà, c'est les gens qui ont envie de baisser leurs charges, de limiter énormément leur chauffage et d'avoir du confort. C'est vrai que c'est vers nous qu'ils se tournent assez naturellement.
Alors, ça, vous l'avez dit, et ça c'est important, ça ne concerne pas que les constructions neuves, ça concerne aussi la rénovation. Alors, est-ce que, justement, la rénovation, une rénovation pour mettre en place un logement, un appartement, une maison passive, est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est cher ?
Ah, c'est un petit peu plus compliqué que le neuf parce qu'on travaille avec quelque chose qui existe et donc on travaille avec des contraintes qui n'existent pas dans le bâtiment neuf, puisque le bâtiment neuf on le conçoit pour qu'il soit passif. Alors il y a des contraintes, notamment sur l'étanchéité à l'air, qui est plus compliqué avec la rénovation. Et puis il y a quelques ponts thermiques qu'on arrive difficilement à contrer. Mais...
Qu'est-ce qu'un pont thermique ?
Alors, qu'est-ce qu'un pont thermique ? Un pont thermique, en fait, c'est une zone par laquelle le froid va plus facilement pouvoir passer, qui va être moins bien isolée. Alors, je vais vous prendre l'exemple, par exemple, d'une dalle au sol, au rez-de-chaussée, qui va être plus compliquée à isoler puisqu'elle est en contact directement avec la terre. Donc, cette zone-là, en neuf, on va l'isoler, on va la prévoir, on va la dessiner pour qu'elle soit plus facile à isoler. Sur un bâtiment existant, on est obligé de jouer avec les contraintes. De temps en temps, on a du béton partout, dedans, dehors. Donc, il faut arriver à jongler avec l'existant. Mais c'est aussi le travail des architectes et des BET, des bureaux d'études techniques, thermiques en l'occurrence, qui vont essayer de trouver la bonne parade et la façon de gérer au mieux, justement, ces zones de déperdition.
Il existe des aides aussi, justement, si on veut rénover son logement en énergie passive. Alors, encore ?
Il existe les mêmes aides que pour le reste de la réhabilitation. Il n'y a pas plus d'aides.
Il n'y a pas d'aide spécifique.
Hélas, pas plus d'aides.
Ça viendra peut-être.
Ça viendra peut-être, oui. On compte sur le gouvernement pour faire quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, la rénovation, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait aborder en passif aussi. Ça change la vie des occupants. Nous, on l'a déjà fait sur des bâtiments. C'est un petit peu une révolution dans un bâtiment qui pour l'instant est totalement déperditif. Enfin, au départ, en général, ce sont des bâtiments qui ne sont pas isolés, donc des zones de froid, de condensation, qui ont beaucoup de pathologies. Et réhabiliter en passif, c'est vrai que c'est garantir sa pérennité et son évolution dans le temps, donc c'est une bonne chose.
Merci pour ces éclairages, Laurence Bonnevie, présidente de l'association La Maison Passive. Merci beaucoup, bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
On continue à parler de ce sujet avec Julien Riva, architecte à Saint-Étienne, qui est notre invité jusqu'à 13h. France Bleu.
6h-9h. France Bleu Matin.
Ah, on a pensé à vous, les gourmands. Oui, oui, quand on se lève tôt, on a une petite faim lors du petit déjeuner. C'est pourquoi demain, nous parlerons de chocolat. À l'occasion d'un salon qui se tient tout au long du week-end prochain à Saint-Just-Saint-Rambert, on vous en parle de ce programme à 8h-20 et au chapitre des gourmandises culturelles. L'agenda des sorties vous propose de gagner vos places pour aller applaudir Manu Payet à Saint-Étienne et au Puy-en-Velay. Vous jouerez à 8h10. Je vous souhaite une belle journée et rendez-vous demain.
France Bleu Matin.
Besoin d'un coup de projecteur pour que votre manifestation soit une réussite ? Ayez le bon réflexe. La page officielle Facebook France Bleu Saint-Étienne-Loire. Un message, un clic et vos animateurs se feront un plaisir de nous parler de vous sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. France Bleu et Notre Temps, le magazine qui vous informe sur votre santé, votre argent, vos droits, mais aussi sur les loisirs et la culture, se retrouve autour du dossier Évasion en France. Tous les mois, Notre Temps invite une personnalité à partager les bons plans et les belles adresses de sa ville. En décembre, Fabienne Amiac, amoureuse de la Dordogne, nous guide à Montignac. Tous les mois, Évasion en France, du magazine Notre Temps, un coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
Sans Rennes Morin, un accident de travail impressionnant à Bois-sur-Lignon ce matin.
Un homme pris en charge par les pompiers, le SAMU de la Loire, il y a quelques heures, il a fait une chute de 5 mètres d'une nacelle élévatrice. Ça s'est passé donc à Bois, dans un magasin de bricolage. Il souffre d'un traumatisme crânien. Il a été transporté par hélicoptère au CHU de Saint-Étienne. Appel à la prudence des pompiers ce midi, ça souffle fort sur nos deux départements. La Loire et la Haute-Loire sont placés en vigilance jaune par Météo France. Les pompiers ont fait pas mal d'interventions pour des chutes d'arbres et des chutes de matériaux.
Les profs sont dans la rue aujourd'hui. aujourd'hui.
Avec un millier de personnes à Saint-Etienne, notamment dans la rue pour dire au ministre Jean-Michel Blanquer de ne pas supprimer les centaines de postes dans l'éducation. Pour la première fois depuis 2011, tous les syndicats ont appelé à manifester ensemble. En Haute-Loire, un immense exercice attentat organisé ce matin. Un exercice suite aux attentats du 13 novembre à Paris pour apprendre aux élèves à se mettre à l'abri en cas d'attaque. Le préfet de Haute-Loire dresse actuellement un bilan de l'exercice.
En Guadeloupe, un final incroyable à la route du Rhum ce matin.
Oui, Francis Joyon a remporté la course avec à peine 7 minutes d'avance sur François Gabart qui était en tête depuis le début. Et puis, l'actu foot du jour, ce sont les Verts qui sont 5e de Ligue 1 ce matin après une belle victoire contre Reims samedi, alors que Monaco a encore beaucoup, beaucoup souffert hier soir à domicile, 4-0 face au PSG.
Midi et demi, un petit point sur vos conditions de circulation. Ça se passe plutôt bien dans Saint-Thé, autour de Saint-Thé. Pas de grosses difficultés à vous signaler sur la 47 non plus, la Nationale 88, la 72 quand vous voulez sortir pour l'aéroport de Boutéon. Ouais, là, ça peut être un peu compliqué en direction de Roanne, hein, mais ailleurs, ça se passe bien. 04 77 10 00 10.
France Bleu Saint-Étienne-Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire. Une heure ensemble.
Dans un instant, notre long format sur un sujet, une nouvelle poste qui va ouvrir à Saint-Étienne avec aussi toute une histoire d'architecture. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce que nous recevons Julien Riva, architecte à Saint-Étienne, pour le projet première mondiale, si tout va bien, à Saint-Priest-en-Jarret, de bâtiment de dialyse, bâtiment de santé. Alors en plus de cela, il y a des contraintes justement liées à la nature du bâtiment, on va en parler, mais même si vous avez fait une spécialité du bâtiment passif, vous n'avez pas fait que ça. C'est une histoire, la maison Riva, depuis plus de 30 ans, non ?
Oui, tout à fait. Le cabinet a été créé par mon père dans les années 70. Moi-même, donc j'ai démarré mes études à Saint-Étienne. Je les ai poursuivies et achevées à Paris. J'ai travaillé quelques années dans la capitale et puis je suis revenu en 2001 reprendre le cabinet.
Si on regarde, si on lève la tête quand on se balade à Saint-Thé ou ailleurs, qu'est-ce qu'on peut voir comme bâtiment qui a été pensé et fait par votre atelier d'architecture ?
Alors, plusieurs, comme ça...
En 30 ans, j'imagine qu'il y en a quelques-uns.
à Brûle-Pourpoint, je pense récemment à Novaciéry, à Saint-Chamond, All-in-One. Celui qu'on est en train de créer avec Sud Architecte Steel, à côté d'IKEA et dans la zone du Pont de l'Âne. Voilà, c'est peut-être les plus récents et les plus emblématiques. Après, en bâtiment passif, on a eu la chance pour nos bureaux d'intervenir sur un bâtiment de la Mézière, le bâtiment des énergies Cour Fauriel à Manufrance, c'est nos locaux. Et c'était aussi une première à l'époque, puisque c'est le premier et unique à ce jour monument historique labellisé Passive House. Donc charité bien ordonnée commence par soi-même. On a commencé par faire par nos bureaux, ce qui a permis de baisser les charges de chauffage de l'ordre de 6000 euros à 400 euros à l'année.
Ah oui, c'est pas rien.
C'est pas
rien du tout. En effet, parce qu'on le rappelle, certes, la mise en place peut-être d'une technologie d'énergie passive dans un bâtiment peut coûter un peu cher quand même, notamment peut-être sur le neuf ou à la rénovation, mais derrière, on y gagne.
Ah oui, tout à fait. C'est pas un investissement à perte, même si, je dirais, philosophiquement, le but premier est avant tout la préservation de l'environnement, mais en plus, cerise sur le gâteau, il y a un retour sur investissement qu'on peut estimer, suivant les projets, entre 7 et 15 ans. Pour nos bureaux, c'était 12 ans. Voilà, on les a rénovés il y a 7 ans maintenant, donc dans 5 ans, on va être bénéficiaire.
Donc c'est l'avenir, hein, finalement, du bâtiment.
Oui, tout à fait. Vraiment, on ne pourra plus faire autrement. Ce qui est dommage, c'est que cette technologie qui est maîtrisée, beaucoup de pays d'Europe du Nord l'imposent, c'est-à-dire c'est leur standard, leur exigence minimale. Dans le Vorarlberg, en Autriche, dans le canton de Bruxelles, en Belgique, vous êtes obligé de construire passif. En France, ce n'est pas encore le cas, ce qui est dommage, parce que quand on rénove un bâtiment, on est parti pour 20-30 ans avant la première rénovation lourde. Et donc, ça veut dire que les choix qu'on ne fait pas aujourd'hui, il va falloir les assumer pendant 3 décennies.
Alors, la nouvelle poste de Saint-Étienne n'est pas une poste passive. Enfin, je parle de l'énergie. Ça ouvre aujourd'hui à Saint-Étienne. C'est le bureau de poste Wilson. On est en plein centre-ville, entre la place Jean Jaurès et la place de l'Hôtel de Ville. Un bureau dernière génération réalisé par un designer freelance. Objectif, utiliser le design pour faciliter le parcours du client et œuvrer pour réduire la fracture numérique. Bonjour Marie Roarch.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors vous avez visité ce tout nouveau bureau de poste avant son ouverture au public.
Oui, et pas besoin de passer la porte de ce bureau pour voir la première nouveauté, la vitrine. Fini l'aspect fermé, sombre des vieilles postes. À Wilson, on est en fait dans une véritable boutique, claire, lumineuse. Et à l'intérieur, vous pouvez oublier l'image que vous avez d'un bureau de poste traditionnel. Les guichets ont disparu ou presque, ils sont relégués au fond de la pièce. Les clients sont accueillis dès l'entrée par des postiers qui les orientent vers les automates répartis autour de la pièce, vers l'espace dédié aux conseillers bancaires ou vers les tablettes en libre service et connectées au Wi-Fi que l'on peut utiliser tranquillement dans un espace qui se veut cosy, un peu en retrait, parce que ce bureau nouvelle génération est connecté et équipé d'écrans géants sur lesquels défilent les offres du groupe La Poste. Objectif souhaité, en faire un lieu de vie plus convivial, plus design aussi, pour adapter les activités de La Poste aux évolutions des besoins et des usages de clients plus autonomes.
Un petit coup de jeune pour le bureau et pour La Poste qui a été pensé avec le concours de la Cité du Design de Saint-Étienne.
En effet, des ateliers ont été organisés à la Cité du Design pour déterminer quel mobilier, quelle organisation de l'espace seraient les plus appropriés pour rendre ce que La Poste appelle le parcours client le plus agréable et efficace possible. C'est ce qu'explique Pascaline de Glaudebesse, la designeuse du projet.
Il y a un parcours qui est initié un petit peu par l'espace lui-même, puisqu'il y a une pile centrale qui est aussi un point giratoire. Donc tout invite à rentrer, l'accueil se faisant plutôt dans le fond de La Poste, et à pouvoir tourner et circuler librement dans l'espace et pouvoir s'asseoir aussi, puisqu'on est un petit coin salon. On a vraiment voulu créer des espaces de circulation qui soient confortables, tout en privilégiant aussi cette grande table qui est au centre, pour que les gens puissent s'asseoir, puissent se poser, écrire leur courrier, voilà.
Le tout toujours sous la supervision des postiers, qui seront en permanence 4 présents dans le bureau pour accueillir les clients devant un automate, assis à cette grande table centrale ou au guichet. Les Stéphanois qui découvrent cette boutique sont pour l'heure un peu sceptiques, pas convaincu qu'un nouveau bureau design remplace les 2 vieux bureaux de proximité, préfecture et hôtel de ville, qui eux ferment.
Merci beaucoup Marie Roarch. Julien Rivet, quand on est architecte à Saint-Étienne, là il y a ok le sujet passif qu'on aborde ce midi, mais quand on est architecte à Saint-Étienne, est-ce que on se met dans une partie de notre tête le côté design, travailler là-dessus?
Alors tout à fait. De manière récurrente, nous travaillons avec des designers sur des projets passifs ou non. J'ai en tête comme ça un projet avec lequel nous travaillons avec Julien de Souza, designer stéphanois, pour le conseil départemental de la Loire, sur la rénovation de l'ancienne IUFM au niveau du Jardin des Plantes, juste derrière l'Opéra Théâtre. Ce bâtiment sera d'ailleurs la plus grande rénovation labellisée passive en France, 5000 m² de bureaux qui étaient à l'abandon parce que épave thermique, et donc qui vont aujourd'hui fonctionner avec 5000 m² avec la puissance d'une chaudière de maison individuelle. Vous donner une idée de la performance. Et donc, le designer Julien de Souza est associé avec l'atelier des Vergers également sur cette opération pour avoir justement et offrir aux agents une vraie expérience design et des locaux qui vont être plus conviviaux. Et très souvent, nous avons la chance d'avoir sur Saint-Étienne un foyer de designers très talentueux. Et de manière récurrente, nous répondons à des appels d'offres avec certains d'entre eux.
Donc design et énergie passive peuvent faire bon ménage, et vous en avez cité un exemple. Dans un instant, votre nouvel invité, c'est un membre d'Eliasol, Franck Janin, un bureau d'études avec lequel vous travaillez, et on va faire connaissance avec eux, parce que c'est avec eux que vous avez travaillé sur le projet du bâtiment de santé.
Tout à fait.
Voilà, donc quel était son rôle, quel est le rôle d'un bureau d'études, comment ça marche. On parle d'énergie passive, de bâtiment passif jusqu'à 13h sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, on passe une heure ensemble.
j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Ouh, ouh, ouh. J'avais perdu l'habitude de sentir mon profond de solitude. Je ne m'apercevais pas. Tu étais derrière chacun de mes pas. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte.
Ça reste le tube quand même de De Palmas sur la route, sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, quasiment une heure moins le quart.
Une heure ensemble. Une heure ensemble. Olivier Vaucher.
Nous sommes avec Julien Riva, architecte à Saint-Étienne, qui, avec son cabinet, propose et va concevoir un bâtiment passif de santé, une première mondiale à Saint-Priest-en-Jarret, bâtiment de dialyse. Et Julien Riva, vous bossez sur tous vos projets passifs avec un bureau d'études, c'est ça ?
Oui, tout à fait, avec le BET Eliasol et donc Franck Janin, son gérant.
Et c'est pour ça que vous voulez la voir ce midi ?
Oui, tout à fait, parce que Franck est très... Outre le fait que ce soit également devenu un ami au fil du temps, c'est quelqu'un de très compétent et très agréable pour travailler justement sur ce type de projet.
Franck Janin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, Eliasol, c'est un bureau d'études basé dans le Rhône, c'est ça ? À qui vous adressez vos conseils ? Avec qui vous travaillez ?
Alors, on travaille sur une gamme très large, du particulier qui veut faire une maison passive, donc quasiment sans chauffage. Mais on travaille aussi pour des collectivités, on travaille sur des plus gros projets avec des architectes. Donc, c'est une gamme vaste.
Alors, consommer moins, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais est-ce que c'est à la portée de tout le monde ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Tout le monde est d'accord, oui. Après, les gens s'inquiètent du surcoût, mais on peut arriver à ne pas dépenser beaucoup plus ou pas plus. C'est-à-dire que l'argent qu'on va dépenser en plus pour mieux isoler, pour mettre des meilleurs vitrages, une meilleure ventilation, eh ben on va en rééconomiser une bonne partie ou la totalité en économisant une installation de chauffage. On va se passer de pompe à chaleur, plancher chauffant assez souvent, voilà.
Alors vous êtes
donc
deux.
Globalement, on arrive à des coûts à peine plus élevés.
Vous êtes deux hein, dans votre bureau d'études, donc c'est un tout petit bureau d'études, mais qui se lance dans cette mouvance-là d'énergie passive, de bâtiments, maisons passifs. Pourquoi vous vous lancez là-dedans ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous attire dans cette philosophie-là ?
Oui, alors on s'est lancé il y a 10 ans là-dedans.
Je veux dire, ouais,
depuis dix ans, on est vraiment axé sur le passif, au point que maintenant on fait 50% de notre travail est dans le domaine du passif. Alors qu'est-ce qui nous attire? Ben pour nous, c'est vraiment la solution la plus simple pour consommer peu, hein, c'est de garder la chaleur dedans et d'isoler. C'est pour nous plus efficace que de rajouter des énergies renouvelables en plus, de couvrir le toit de panneaux photovoltaïques, qui eux-mêmes auront aussi un inconvénient vis-à-vis de l'environnement,
et de recyclage,
une consommation de ressources, un recyclage. Voilà. Donc le plus simple, c'est quand même de garder la chaleur dedans. Et c'est ce qu'on fait. Pour nous, ça nous permet même d'aller vers le bâtiment frugal, simple. Voilà, donc c'est vraiment une stratégie intéressante. Et on peut même le faire en paille. Donc paille, bois, ou comme je dis, BTP, bois, terre, paille.
C'est votre credo, ça.
Voilà, on peut faire du BTPP, bois, terre, paille, passif. Donc extrêmement simple.
C'est mieux que de mettre donc des photos, des panneaux photovoltaïques. C'est une maison qui garde la chaleur, mais c'est un bâtiment qui garde la chaleur, qui a une certaine étanchéité, qui a été travaillée pour que justement que cette chaleur reste à l'intérieur. Mais il faut que ça soit un bâtiment, une maison qui respire. Comment ça marche?
Alors oui, juste pour compléter, le fait, on n'est pas contre les panneaux photovoltaïques, mais sur une maison passive, il suffit d'en mettre 10 ou 20 mètres carrés, là où vous en mettrez 50 ou 100 sur une autre. Voilà.
Okay.
Maintenant, pour revenir à votre dernière question, bah oui, on va rendre la maison étanche. Alors, ce ne deviendra pas un thermos, puisqu'on va ventiler de façon volontaire et mécanique. Alors pourquoi on rend les maisons étanches? Ben parce que si on laisse des trous, on va avoir une ventilation très forte quand il y aura beaucoup de vent et nulle quand il n'y aura pas de vent. Voilà. Donc la solution pour consommer peu et avoir une très bonne qualité d'air, c'est de rendre étanche et d'installer une ventilation qu'on appelle double flux, qui va récupérer la chaleur et ainsi avoir une ventilation contrôlée dans toutes les pièces pour une qualité d'air bien meilleure que dans les maisons standards ou les bâtiments standards.
Parce qu'il faut le dire, les meubles qu'on installe dans une maison, dans un appartement, ils dégagent aussi des produits qui nuisent à la bonne qualité de l'air. Cette maison-là, elle respire quand même, elle permet d'évacuer cette respiration de meubles.
Oui. Alors il y a plusieurs choses à évacuer. Il y a le CO2 produit par les gens, parfois un excès d'humidité, et puis ce dont vous parlez, c'est les COV, les formaldéhydes, tout ce qui peut être dégagé par le mobilier, ce qu'on a introduit nous-mêmes. Alors la ventilation va se charger des trois.
D'accord.
Tout à fait.
Et donc on a une qualité de l'air qui est meilleure que dans d'autres bâtiments. On l'a compris. Et du coup, comment vous êtes arrivé à vous rencontrer avec Julien Arriva et à travailler sur l'ensemble de ces projets passifs?
Oula.
Comment c'est venu cette histoire?
Je ne me souviens plus de la rencontre initiale.
Alors,
ça fait des années qu'on collabore.
C'était une formation sur le logiciel de thermique PHPP, puisque nos bureaux sont passifs. Je travaillais dessus. C'était un projet un petit peu fou, puisque il n'y avait pas de bâtiment passif, monument historique labellisé passif. Donc j'ai fait mes recherches dans mon coin, et puis rencontrant des difficultés pour calculer les ponts thermiques, je me suis tourné vers une formation qui était dispensée par Franck Janin, et c'était le début de l'aventure.
Une aventure qui continue, puisque vous travaillez ensemble sur chacun des projets de bâtiments passifs. Merci beaucoup Franck Janin.
Merci.
Allez, bonne journée à vous, et à très bientôt sur France Bleu Saint-Étienne. Dans un instant, on aura le témoignage d'un locataire qui loue une maison passive du côté de Saint-Étienne, à Beaulieu. On est dans le sud de la ville. Rendez-vous dans quelques minutes.
France Bleu. Tous les lundis, 18h, le débrief.
Oui, et puis on va débriefer ce soir la dernière victoire des Verts 2-0 ce week-end contre Reims. Et puis nous serons en compagnie de Jérôme Bonnet, l'entraîneur des féminines de la SS. On va revenir avec lui sur cette série de 7 victoires consécutives avec ses filles de la SS Saint-Etienne. Et puis en fin d'émission, on nous fera un clin d'œil à Anouk Jobert qui est devenue ce week-end première championne de France de combiné d'escalade. À ce soir.
France Bleu Saint-Etienne Loire, le débrief.
France Bleu présente la compilation Talents France Bleu 2018, volume 2. Vos artistes préférés réunis sur un triple CD. Avec 3 cafés gourmands. Patrick Bruel, Jennifer, Jane, Zazie, Christine and the Queen, Kenji Girac, Pascal Obispo et bien d'autres. La compilation Talents France Bleu 2018, le volume 2, disponible en triple CD. Un événement France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Alors, il est comment le nouveau ?
Ah, que du positif. En cuisine, par exemple, il a plein d'idées recettes toutes simples, mais tellement bonnes. Et comme il est rempli d'astuces pour rester en forme, je risque pas de prendre un gramme.
Mais c'est une perle !
Il a même des super bons plans voyage.
Puis tu sais quoi ? Il connaît des people.
T'as raison, il a tout.
Tout pour moi.
Et tu l'as rencontré où ?
Tout pour moi ? Bah, chez mon marchand de journaux. Ah.
Tout pour moi, c'est votre nouveau magazine 3 en 1. People, conseils pratiques, jeux et plein d'autres choses encore. Tout pour moi, 100 pages, 1,90€ seulement, chaque lundi chez votre marchand de journaux. Tout pour moi, c'est tout pour vous.
Quelques mots à te dire, des mots simples à te dire, on les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant, enfin, la première fois, enfant.
Ces mots simples sur France Bleu.
Une heure ensemble. Une heure ensemble. Olivier Bauchet.
Avec Julien Riva, architecte, on va parler d'un exemple de maison passive. C'est dans le quartier Beaulieu, c'est à Saint-Etienne. Et on va évoquer ce quartier-là, ce lot de maisons-là, avec quelqu'un qui en loue une. Mais d'abord, j'aimerais bien qu'on... Julien Riva, architecte, j'aimerais bien qu'on rappelle le projet, l'histoire de ces jardins Clémenceau, ce lot de 13 maisons passives.
Tout à fait. Donc, c'était un terrain qui était vendu par la ville de Saint-Étienne dans le cadre d'un appel d'offres promoteur architecte. Et donc, on souhaitait vraiment faire un projet labellisé passif sur ce site. Donc, on a démarché les promoteurs locaux avec lesquels on travaille. Et ils étaient inquiets parce que c'était un site qui n'était pas forcément évident en termes de commercialisation. Et leur analyse leur ont fait dire que c'était prendre un risque supplémentaire. Et donc, ils ne souhaitaient pas forcément faire du passif. Donc, ils ont tourné les talons et un petit peu embêtés de ne voir aucun partenaire financier. Effectivement, on a associé l'ensemble du personnel de l'agence. Et pour cette occasion-là, on s'est constitué en tant que promoteur. Donc, on a été et promoteur et architecte sur cette opération. On a remporté l'appel d'offres. Les maisons ont été livrées il y a maintenant tout juste un an. Et donc, les habitants, pour certains, donc les acquéreurs, là dans le cas présent, ça sera un locataire, ils ont passé donc un été et un hiver dans les maisons.
Et donc, vous avez des retours des habitants? Comment ça se passe? Quel est leur ressenti?
Alors, leur ressenti en termes de confort thermique est très positif pour plusieurs raisons. Déjà, comme le disait Franck tout à l'heure, une maison passive, c'est une maison très étanche. On a également une très bonne isolation acoustique. Donc, c'est un critère de confort supplémentaire. Et puis, le fait qu'on soit très bien isolé, on n'a pas non plus de sensation de paroi froide. Donc, c'est un autre critère. Et puis, la qualité de l'air intérieur qu'on évoquait avec la VMCW.
On est sur quelle surface? On n'arrive pas à voir pour le moment Benoît Bagan, mais on est sur quelle surface de logement?
Alors, entre 93 et 103 mètres carrés, c'est des maisons en duplex de type T4, donc avec trois chambres, une suite parentale au rez-de-chaussée, deux chambres à l'étage, et c'est des maisons assez courantes, d'aspect extérieur, très contemporaines, avec une double hauteur dans le séjour, 6 mètres sous plafond, ce qui permet d'avoir une très belle ambiance dans le séjour.
On a Benoît Magan au téléphone, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes locataire de ces maisons, alors vous êtes un locataire particulier, expliquez-nous rapidement parce qu'il nous reste que 2 minutes d'émission.
D'accord. Donc nous, c'est assez simple. En fait, on a basé notre siège social dans ces bâtiments. En fait, si vous voulez, dans le principe, on est assez novateur dans notre domaine d'activité. Et c'est vrai que l'image que dégageaient ces maisons, en termes écologiques et même tout ce qui est design, etc. Enfin, ça mettait nos franchisés dans de bonnes conditions parce que on les reçoit sur place en fait pour la formation de leur départ d'activité.
Pourquoi avoir choisi de venir dans un de ces bâtiments-là?
Parce que simplement, déjà, je pense qu'aujourd'hui, ces maisons se reflètent une idée de bon sens, on va dire. Il y a un aspect technologique, mais aussi un aspect design. Et puis, bon, bah, c'est quand on a, comment dire, quand on a envie de s'initier dans une démarche un petit peu plus avant-gardiste et puis d'actualité, c'est-à-dire jouer un petit peu sur l'environnement et choses comme ça. Je pense que bon, aujourd'hui, on a plein de technologies que propose M. Rivol et son cabinet qui sont vraiment au top, quoi.
Est-ce que ça se loue rapidement plus cher qu'une autre maison?
Alors, on pense pas, hein, enfin, tout du moins, on n'a pas regardé, hein, puis ce qui nous intéressait, c'est plus sur le long terme, donc le coût de revient, il est identique. Vous voyez, on paye, 15 euros de chauffage par mois. Faut bien voir, c'est un ensemble. Quoi,
c'est un bon argument, en tout cas. Ouais. C'est un ensemble qu'il faut voir, en effet. Merci beaucoup, Benoît Magan.
Excellente journée.
À bientôt, et merci beaucoup, Julien Riva. Donc, on rappelle ce projet de bâtiment de santé passif, bâtiment de dialyse à Saint-Priest-en-Jarret, vers l'hôpital Nord, donc en juin prochain.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Il est 13h, 1h en France. Denis Farou, Frédéric Le Ternier, bonjour à tous les deux.
Bonjour à vous tous, bienvenue. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 14h avec toutes vos initiatives ainsi que notre patrimoine. Aujourd'hui, on va tester une maison passive. On s'intéresse ensuite à une étude sur la pollution avec des escargots à Besançon. Et enfin, on découvre le Café Joyeux qui permet à des personnes en situation de handicap de travailler. Mais avant tout cela, c'est l'actu de ce lundi 12 novembre. Bonjour Denis Farou.
Bonjour Frédéric Le Ternier, bonjour à tous.
On commence à l'école avec celle qui n'accueille pas d'enfants ce lundi.
Tous les syndicats de l'éducation nationale appellent à la grève. c'est une première depuis 2011 pour dénoncer notamment les suppressions de postes annoncées pour la rentrée prochaine.
Le fisc va tester la surveillance des réseaux sociaux pour lutter contre la fraude fiscale.